Grande Voix d'Europe 1.
10h, 11h.
Pierre de Villeneuve.
Michel Cotta, Catherine Ney, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou et Zemmour dans tout ça. Au plus haut de ses scores il y a encore deux semaines, sa cote fléchit. Le candidat Zemmour a de la peine à compter ses parrainages. Sur Europe, jeudi matin, il l'a dit en être à 300 promesses sur les 500 requis pour valider sa candidature. Qu'est-ce qui se passe? Le phénomène Zemmour est passé de mode, on l'a oublié, on s'est tourné vers ce qu'on appelle le vote utile. Qu'est-ce qui se passe, Gérard Carrérou?
D'abord, il se passe qu'on ne parle plus des thèmes, je l'ai dit tout à l'heure, on ne parle plus pratiquement de sécurité, d'immigration, qui étaient les thèmes qu'ont fait monter Zemmour pendant les 3 ou 4 semaines avant les fêtes de fin d'année.
On ne parle que de la Covid.
Et il a rien, franchement, disons les choses, il n'a rien de particulier à proposer sur la Covid. Pas plus que beaucoup d'autres. Donc, effectivement, il y a une baisse mécanique. Est-ce qu'il va... Alors, je ne me prononcerai pas pour savoir s'il va retrouver un deuxième souffle, s'il va réussir. Il a dit, je ne me laisserai pas avoir par Macron. Je vais... Bon, il va essayer de relancer ces trucs. Mais en attendant... Le problème, c'est pas tellement... C'est bien sûr un problème pour Zemmour, mais c'est peut-être d'abord, et plus encore, un problème pour Pécresse, dont nous parlions il y a quelques minutes. Parce que s'il n'y a plus de Zemmour, c'est simple, s'il n'y a pas de parrainage assez, s'il n'y a plus de Zemmour candidat, c'est mécanique. Madame Le Pen, qui est à touche-touche, comme on dit, avec Pécresse, Madame Le Pen peut repasser devant et à ce moment-là, il y a plus de Pécresse au deuxième tour et on retrouve le schéma de 2017. Donc, qu'est-ce qui peut se passer? Alors, il lance un appel. Bon, le président des maires de France lui a répondu. Bon, mais en fait, le fait politique, c'est ce matin ce qui s'est passé sur Europe. C'est, vous avez peut-être entendu tous la petite phrase de Stefanini, qui est le directeur de campagne de Pécresse. Quand Monsieur Stefanini, avec toute l'autorité et l'expérience qui est la sienne, dit que les maires LR, sont libres de leur parrainage, ça veut dire, ça veut rien dire et ça veut tout dire. Ça veut dire ce que ça veut dire, c'est-à-dire que s'il y a, comme par hasard, quelques dizaines, quelques peut-être même 200 de maires LR qui décidaient de donner leur parrainage, à Monsieur Zemmour, d'abord il aurait ses parrainages, donc il serait candidat, et ça permettrait à Madame Pécresse d'avoir ce ballon d'oxygène qui
vous
permettrait d'être au deuxième tour.
Vous parliez du touche-touche, je dis juste un sondage qui est paru ce matin dans le Parisien, donc on a Marine Le Pen à 17, Valérie Pécresse à 16, et effectivement Éric Zemmour, j'allais dire loin derrière, mais il est quand même à 12, qui n'est pas tout à fait au touche-touche.
Mais aider Zemmour, c'est aussi pour Pécresse un pari risqué, parce que Zemmour, aider, peut passer devant Madame Pécresse. Ils sont tous à touche-touche. Marine Le Pen, 16-17, Pécresse, 16-17, ou 16 à l'heure actuelle, et 12 pour l'instant. C'est un des sondages.
C'est un sondage.
Comme d'autres sondages,
à prendre avec parcimonie, je le répète.
Il est à 13,5. C'est un pari risqué. C'est la raison pour laquelle, y compris, à mon avis, tu as cité la phrase de Stefanini, qui est le chef d'orchestre de la campagne Valérie Pécresse. Patrick Stefanini. Bon. Mais c'est un pari risqué et c'est la raison pour laquelle je pense que les Républicains notamment devraient attendre le Money Time, ce que les professionnels du football anglais appellent le Money Time, c'est-à-dire la dernière ligne droite, le dernier quart d'heure pour se décider, vraiment.
Michel Cotta.
Je trouve que le problème de Zemmour quand même, c'est qu'il a réussi à mettre un thème au centre du jeu. Hein, le thème de la sécurité au centre du jeu. Là-dessus, il n'y a pas de problème.
L'immigration.
Sur l'immigration, bien sûr. Bon, donc là-dessus, il a au fond déterminé toute une partie de la campagne. Maintenant, je pense qu'il n'a pas fait sa mue. Il n'a pas fait sa mue de candidat. Il était effectivement sa mue de penseur, de polémiste, qui met le doigt sur les problèmes. Il n'apparaît pas aux yeux des gens, apparemment.
Mais pourquoi? Qu'est-ce qui manque?
Il manque...
Quand tu fais plus de 10, déjà que tu commences à apparaître comme un...
Mais c'est pour ça que je demande à Michel Cotta, qu'est-ce qu'il
manque? Il manque quand on commence... Effectivement, il fait plus de 10, mais enfin, il a commencé très vite et très fort. Et puis, on a bien senti qu'à un moment donné, ça a patiné.
Il faut tenir dans la durée.
Ça patine parce qu'au fond, les projecteurs, il les a mis sur les idées, mais il ne les a pas mis sur son personnage, qui, vous me direz ce que vous voulez, n'est pas un personnage présidentiel évident.
Oui, non, mais c'est vrai que pendant plusieurs semaines, on n'entendait que lui. C'est-à-dire.
À tout bout de champ.
Oui, ouais. C'est donc notre faute, aussi.
Quand les sondages montaient, ils confondaient peut-être notoriété et désir de voter pour lui. Mais enfin, ça faisait monter dans les sondages. Et c'est vrai que depuis la fin décembre, on l'a moins vu. Donc, il a baissé. Et puis, les propositions, on ne les connaît pas. Mais Il était sur Europe 1
cette semaine, jeudi matin.
Et moi, ce qui m'a frappé, vous voyez, alors que souvent, quand les politiques restent 40 minutes, tout d'un coup, la tension s'en va, on l'écoute.
Oui.
C'est quelqu'un qui capte l'attention, qui, dans un meeting, peut faire fort. Si on relève, je veux dire, voilà, c'est tout ce que je dis pour l'instant. Alors que c'est les autres candidats, qui on peut, s'ils n'ont pas des propositions intéressantes, moi, je trouve qu'ils ont, pour l'instant, au bout d'un moment, de 10 minutes, on dit, bon,
oui,
on lâche prise.
Ouais.
Si on parlait dans le...
Moi, je crois que Emmanuel Macron a très bien compris que ce qui submerge tous les sujets, c'est la pandémie. Et toutes les discussions se tournent. Tout à l'heure, Gérard disait, de toute façon, tu ne peux pas entamer un dialogue avec quiconque sans qu'on te parle de la pandémie.
Alors, tu as combien de doses? Et toi, tes enfants, tu fais comment?
Et donc, partant de là, tous les sujets qu'il a mis en exergue, notamment plus que la sécurité, les migrations, l'identité de la France pour l'instant, est submergée par ce qui se passe, comme dans tous les pays européens.
Mais il devrait s'adapter, non? Enfin, je veux dire,
sauf que ses connaissances, son savoir, les sujets sur lesquels il a réfléchi, il a des arguments, ne sont pas ceux qui relèvent de la médecine.
Ah, non, mais il devrait s'engager, par exemple.
Ce qu'a dit
Catherine, moi, ça me paraît un des sujets essentiels, et on n'en parle absolument pas. Ça s'est limité à ce que M. Macron dise qu'il allait relancer des petits réacteurs nucléaires. Il n'a pas donné plus de précision. Et on se dit, oh là là, c'est encore une histoire. On ne voit pas comment ils vont
et
sortir.
Et tu sais pourquoi il l'a dit? C'est deux jours après que la droite ait dit qu'il faut relancer le nucléaire.
Mais il y aurait un des candidats majeurs. Ah, oui. Et je mets dans les candidats majeurs, bien sûr, Mme Pécresse ou Mme Le Pen et M. Zemmour, aurait fait une proposition structurée pour une relance gaullienne des centrales nucléaires en France, à un moment où la France va avoir,
on ne se rend pas compte, le problème est devant nous,
le plus grand mal,
très grave.
Le plus grand mal, eh bien personne pour l'instant...
Mais Gérard, il faut connaître le dossier.
Ah ben oui, il faut connaître le dossier. Mais si on est candidat à la présidence de la République, il faut parce que ça, le
dossier. Mais vous parlez des angles morts. Macron, il y a effectivement des angles morts, mais alors des angles morts de Zemmour, il y en a une pagaille.
C'est ça le problème.
Il nous reste à parler du Kazakhstan, alors je vous propose de marquer une pause et on revient dans un instant.